attitude extrêmement réservée sur la commission, ce qui explique notamment son attitude au moment, quelques années plus tard, quand il a présidé la Convention, où il a en fait beaucoup milité pour créer un président du Conseil européen, qui est aujourd'hui M. Van Rompuy, et qui apparaît un peu comme un rival du président de la Commission européenne. Mais il y avait quand même aussi quelque chose qui était très important, c'est qu'il avait compris que l'instance politique qui dirigeait les affaires européennes ne pouvait plus être les ministres des Affaires étrangères. Que les affaires européennes étaient tellement intergouvernementales qu'il fallait une instance que le Conseil Affaires Générales. C'était comme ça qu'on appelait. Il y avait le Conseil Affaires étrangères qui est tout à fait différent, qui faisait des affaires étrangères. Mais les ministres des Affaires étrangères se réunissaient dans le cadre du Conseil Affaires Générales. Et ça, il avait senti qu'il fallait quelqu'un, il fallait une instance qui soit effectivement interministérielle en réalité, et que c'était donc les chefs de gouvernement et, dans le cas de la France, le chef de l'État qui y figurait. Je crois qu'il y a une dimension anti-Conseil Affaires Générales, autant qu'anti-Commission dans la création du Conseil européen. Enfin, je voulais faire cette petite remarque. Sinon, je voulais... Vous avez dit, je souscris d'ailleurs tout à fait à cette analyse, qu'il y a un grand fond de continuité entre la politique gaulliste et la politique giscardienne, sauf, dites-vous, sur les questions européennes. Mais évidemment, le sauf est majeur, parce que c'est quand même le cœur de la politique diplomatique. Et je voudrais vous interroger sur la question de savoir quelle est la nature exacte de cette rupture. Moi, il me semble, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, il me semble que la France, depuis la libération, navigue entre trois concepts. Un concept franco-allemand, qui est en fait fixé par la déclaration Schuman du 9 mai 50, que tout le monde reprendra d'une façon ou d'une autre, avec des nuances sur la supranationalité, et qui fait du franco-allemand l'axe fondamental de la relation de la diplomatie française, et avec effectivement un soutien des États-Unis dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Deuxième concept, le concept interallié, qui apparaît de temps en temps, c'est-à-dire qui a été formulé par le général de Gaulle lors de son mémorandum de 58 sur la constitution d'un directoire, qui suppose là une asymétrie entre l'Allemagne et la France, et là la constitution d'un bloc américano-anglo-français. Les Américains ont toujours été très réservés là-dessus, notamment pour ne pas se brouiller avec les Britanniques qui n'avaient pas du tout envie de partager leurs privilèges avec la France dans les relations particulières. Mais c'est quelque chose qui est assez important. Et chez De Gaulle, ça s'est quand même concrétisé par un point précis, qui est la force de dissuasion, qui objectivement crée une situation différente, stratégiquement différente, entre la France et l'Allemagne pour longtemps. Et là, on voit bien que ça, Mendès a un peu côtoyé cette affaire-là, ça réapparaît de temps en temps. Et le troisième concept, c'est un concept franco-russe, qui est une tendance très profonde de la diplomatie française, qui apparaît notamment après le traité de l'Élysée, après l'arrivée de Erhard aux affaires en Allemagne, la fin de l'ère Adenauer, et une relation extrêmement refroidie entre l'Allemagne et la France. Sur l'interallié, c'est un peu l'idée de Pompidou aussi, je reviens en arrière, c'est un peu l'idée de Pompidou. Quand il fait rentrer le Royaume-Uni dans l'Union européenne, il fait la paix avec ses cinq partenaires après les vétos du général de Gaulle, mais en même temps, il le dit très clairement, un, je bloque une évolution trop supranationale de la France, de l'Europe, et deux, je crée une relation qui me permettra d'avoir une relation plus équilibrée avec l'Allemagne, parce que Pompidou se méfiait énormément de Brandt. Il n'aimait pas Brandt, il ne le comprenait pas, et les relations franco-allemandes ont été quand même très détériorées, pratiquement de Erhard à l'arrivée de Schmitt. Et donc là, il y a une rupture importante. Alors ces trois options, on voit bien que Giscard choisit l'option franco-allemande, mais en même temps, sur ce fond-là, il maintient une relation privilégiée avec l'URSS, qui se manifeste jusqu'au bout. Et ce que vous suggériez, c'est là aussi que je voudrais vous interroger, est-ce que c'était compatible? Est-ce qu'en réalité, on pouvait à la fois reconstruire l'entente franco-allemande qui allait déboucher en fait sur le discours de Mitterrand à Bonn en 83 contre le réveil de la guerre froide, contre les SS-20, en demandant l'installation des fusées Pershing en Europe occidentale. Est-ce qu'il y avait cette logique-là? Et est-ce qu'on pouvait en même temps continuer à faire des mimis avec les Russes, comme ils le faisaient, au risque de se faire qualifier de petit télégraphiste par François Mitterrand, petit télégraphiste de M. Brejnev par François Mitterrand? Là, j'aimerais bien voir comment vous analysez la part de rupture et la part de continuité.
François Bugeon de l'Étang.
La réponse n'est pas simple et l'équation que vous rappelez ne l'était pas non plus. Monsieur Giscard d'Estaing s'est posé, nous l'avons dit, en européen dès qu'il est arrivé et a voulu faire avancer la construction européenne. En même temps, il avait dans son discours une coloration infiniment plus atlantiste que ses deux prédécesseurs. Rappelez-vous d'ailleurs, certaines personnes avaient même été choquées lorsque, au soir de son élection en 1974, il s'était adressé en anglais aux télévisions américaines qui étaient présentes tout de suite. Donc, cette coloration atlantiste, il a voulu la donner en même temps qu'il donnait une coloration européenne. Et il explique dans ses mémoires, puisqu'il explicite ses critiques à l'égard de la politique européenne du général de Gaulle, qu'il trouvait que celle-ci mettait beaucoup trop l'accent sur la coopération interétatique au sein de l'Union européenne, beaucoup plus que sur la construction, je dirais, technocratique de la Commission, etc. etc. Donc, il a voulu se démarquer de toute cette approche, mais dans une certaine ambiguïté, puisque, à la fois, il a poursuivi la politique du général de Gaulle dans bien des domaines, et notamment dans le domaine d'une coopération franco-allemande très très étroite, qu'ensuite il a continué souvent, comme le général de Gaulle lui-même, à chercher à utiliser la communauté européenne, comme on l'appelait encore à cette époque, comme une espèce d'amplificateur de la puissance française. Ça s'est resté une donnée constante de la politique étrangère de la France jusqu'aux années 90, au fond. Et qu'il s'est déclaré atlantiste sans aller jusqu'aux extrémités que normalement l'atlantiste aurait dû entraîner. Il a continué de développer la force de frappe, qui était un héritage gaullien. Il a même consacré des efforts très importants à l'augmentation des crédits de défense pendant toute la durée de son septennat et à développer la panoplie des armes nucléaires de la France. Il a entrepris de parler de stratégie très sérieusement avec les présidents américains successifs. Il en a eu 4 en face de lui pendant son septennat, ce qui est tout à fait singulier, mais essentiellement Ford et Carter, et il n'a jamais envisagé, par exemple, ce qui attendra encore 25 ans après lui, de réintégrer la France dans le dispositif intégré de l'Alliance Atlantique. Donc, il est quand même resté dans la filiation du gaullisme sur beaucoup, beaucoup de sujets, même s'il a cherché à développer une construction communautaire beaucoup plus étroite et fondée sur une relation franco-allemande qui était l'axe cardinal de tout. Donc la réponse à la question de Jean-Louis Bourlange n'est pas simple, puisque d'un côté, on le trouve en bon héritier du gaullisme, et de l'autre, en européaniste, beaucoup plus dans la continuité d'un Jean Monnet ou d'un Robert Schuman.
Thierry Pêche.
Oui, non, je me disais en vous écoutant que l'Europe de l'époque était un sujet quand même à la fois plus compliqué parce qu'il y avait l'ombre soviétique à l'Est, mais aussi plus simple dans l'opinion, parce que je pense qu'il n'y avait pas de divergence majeure sur l'horizon européen pour les Français. Et finalement, c'était une politique très souveraine qui pouvait se jouer dans l'interaction entre quelques hommes, sans qu'il y ait à imaginer, par exemple, des référendums ou des choses comme ça sur les grandes options du septennat. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus, mais surtout, le deuxième point, sur la politique africaine du président Giscard d'Estaing, il me semble que là, pour le coup, il n'y a pas de rupture du tout. Et il y a même... C'est peut-être le point noir, en tout cas, j'aimerais votre sentiment, de son bilan diplomatique. Mobutu, c'est pas glorieux. Bokassa, c'est pas glorieux. La diplomatie du sourire, c'est un peu dissoute dans les usages de la France-Afrique les plus habituels et les moins heureux.
François Bugeon de l'Étang.
Oh, effectivement, je comprends bien cette critique. J'en partage une bonne partie. Il s'est situé dans la filiation. Nous étions quand même dans des années qui étaient très très proches encore des indépendances africaines. Et nous voyons ça avec 40 ans de recul dans le rétroviseur. Il y a des choses qui nous paraissent probablement beaucoup plus incongrues aujourd'hui qu'elles n'apparaissaient à l'époque. Mais là, la continuité est très forte, effectivement. Il avait auprès de lui à l'Élysée René Journiac comme conseiller pour les affaires africaines, qui était un digne continuateur de Jacques Foccart. Et effectivement, l'approche de, à l'époque, de ce qu'on a appelé beaucoup plus tard la France-Afrique était à peu près la même. Il a cherché, à développer des relations avec un certain nombre de grands chefs d'État africains, pour lesquels il avait d'ailleurs beaucoup de considération, comme M. Houphouët Boigny, auquel il consacre des pages assez admiratives dans ses mémoires, avec Bongo. Avec Bokassa, c'est plus compliqué, puisqu'avec Bokassa, ça s'est très bien passé jusqu'à un certain point, et qu'ensuite, il a été parfaitement conscient des excès de Bokassa, et que la fin du septennat a été marquée, au contraire, par un durcissement des relations entre la France et Bokassa. Et puis, il y avait beaucoup d'autres problèmes en Afrique. D'abord, il y avait le problème algérien. Vous avez rappelé, Philippe, vous avez tout à fait raison, qu'il a été le premier président de la République française à se rendre en Algérie en 1975, donc très tôt après son élection. Ça a été à la fois une émotion et une déception, semble-t-il, puisque finalement, la normalisation de la relation franco-algérienne avec Boumédienne n'a pas pu déboucher. Plus tard, la maladie et la mort de Boumédienne ont montré que cette visite avait finalement été sans descendance, si j'ose dire. C'est une visite qu'il aurait fallu faire plus tôt, d'ailleurs. L'idée de cette visite d'un président de la République française en Algérie, il faut lui rendre cette justice, était venue à M. Pompidou. La maladie l'en a empêché, mais le principe de la visite avait été décidé sous Pompidou. Simplement, c'est Giscard qui l'a effectué en 1975. Mais enfin, la volonté de normaliser nos relations avec le Maghreb, de poursuivre une relation confiante avec quelques grands pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Congo, comme le Zaïre de M. Mobutu. Ce sont des idées qui ont traversé la politique étrangère française pendant plusieurs septennats et plusieurs présidents de la République. M. Chirac, après tout, a entretenu avec M. Mobutu une relation confiante qui est allée bien au-delà du raisonnable et qui a été très très critiquée par les Américains, justement, à la fin de Mobutu. Mais c'est vous dire que tout ceci avait duré pendant très longtemps, et également sous Mitterrand, finalement. Donc, je ne lui ferai pas de procès sur ce point, mais je mesure bien avec le recul ce que tout ceci peut avoir de singulier. Au demeurant, en Afrique, il a également eu à faire face à des conflits, à des difficultés. D'abord, l'Afrique était devenue, dans les années 70, un champ de la guerre froide, ce qui était tout à fait nouveau et propre aux années 70 et à la diplomatie brejnevienne. On a vu arriver des troupes cubaines en Angola, on a vu les Cubains et les Soviétiques très très actifs en Éthiopie. Enfin voilà, c'était un champ d'affrontement de la guerre froide, ce qui était tout à fait nouveau. Ça n'existait pas sous De Gaulle. Et il a su assez bien y faire face dans certains domaines. Colvézi, par exemple, qui est un épisode aujourd'hui un petit peu oublié, et l'intervention des parachutistes français à Colvézi pour y défendre une communauté européenne très très menacée et largement prise en otage, était une conséquence directe de la collusion entre les gendarmes katangais, comme on les appelait à l'époque, et les forces cubaines en Angola. C'était dans les franges de la guerre froide que cela se situait en réalité. Et les démêlés avec M. Gaddafi mériteraient à eux seuls une narration en plusieurs volumes, je pense, tant ils ont été complexes autour du Tchad et autour d'affrontements directs franco-libyens. On a oublié aujourd'hui Monsieur Gaddafi a fait mettre à sac l'ambassade de France à Tripoli et notre consulat à Benghazi à une certaine époque, et il y a eu des affrontements armés directs entre Libyens et Français, au Tchad notamment. Donc le panorama africain n'est pas simple.
Et sur la question sud-africaine, sur l'apartheid,
oui.
Et quelles ont été les positions de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque ?
Je ne me souviens plus très bien de tout cela. C'est loin dans l'histoire, mais sur la part, je ne crois pas que la France se soit beaucoup singularisée par rapport à ses partenaires occidentaux sur les questions de l'apartheid, d'une façon générale. Il y avait une certaine unité d'action des Occidentaux avec les Britanniques et les Américains sur l'apartheid.
Sur l'apartheid, je ne sais pas, mais il me semble qu'il avait, en tout cas c'est ce que dit Alexandre de Marange dans ses entretiens avec Madame Ockrent, il avait rompu le soutien de la France à M. Monsieur Savimbi. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier, parce que dans la guerre civile angolaise, Savimbi, qui était un personnage assez extraordinaire, il faut reconnaître, moi je l'ai rencontré, parce qu'il est venu souvent, juste avant de mourir d'ailleurs, au Parlement européen, et on avait soutenu la guérilla de Savimbi contre Dos Santos, et en fait, il avait rompu, or Savimbi était quand même très proche de l'Afrique du Sud.
Oui, là, je crois qu'il faut que vous rappeliez un peu qui était Savimbi, qui était Dos Santos, car une partie de nos auditeurs n'était pas née, et une autre partie était née déjà il y a si longtemps qu'ils ne se souviennent plus non plus.
C'est la guerre civile, la guerre en Angola à laquelle François Bujon-Lettan vient de faire allusion. Et il y avait un partage entre... Il y avait une guerre civile avec manifestement un pouvoir socialiste soutenu par un fort bataillon, par un fort contingent cubain, et en face, une rébellion armée qui était conduite par M. Savimbi, et c'était une guerre atroce, ça a été une guerre absolument atroce de part et d'autre, et Savimbi était à la fois soutenu par les États-Unis, soutenu par l'Afrique du Sud, donc l'apartheid en réalité, soutenu par les Européens et soutenu par la France. Et à un moment, et je ne sais pas vraiment pourquoi, le président Giscard d'Estaing a estimé que ça suffisait, qu'il ne fallait pas qu'on allait retirer notre soutien à Savimbi. Bon, il a continué un certain nombre d'offensives, Savimbi, et puis il a perdu la main et il a été assassiné, il a été tué.
Je change de continent, mais vous avez rappelé tout à l'heure que dans la politique européenne du président Giscard d'Estaing, il y a l'élargissement, et dans l'élargissement, il y a la Grèce. Est-ce qu'on peut essayer de reconstituer les raisons pour lesquelles le président Giscard d'Estaing a été si ardent ? Car l'opposition des autres pays européens à l'entrée de la Grèce était grande, et puis parce qu'aujourd'hui, évidemment, cette entrée de la Grèce dans le marché commun, puis dans l'Union européenne, est éclairée différemment par les circonstances que nous savons et qui, depuis 3 ans, montrent les difficultés que la Grèce a eues à jouer le jeu des règles européennes.
Je crois que dans le cas de la Grèce, il y a eu un mélange de facteurs. Il y a eu une part de réalpolitik et une part d'idéalisme, disons. La part de réalpolitik, c'était l'idée, d'ailleurs il mettait à cet égard la Grèce, l'Espagne et le Portugal dans le même sac, si j'ose dire, qu'il faut aider les pays qui sortent d'une dictature militaire et qui reviennent à la démocratie. Et que la meilleure façon de consolider leur ancrage dans la démocratie, c'est de les faire entrer dans l'Europe, qui est évidemment un havre pour les nations démocratiques. Ça a joué beaucoup dans le cas de la Grèce de M. Karamanlis, puisque la Grèce de Karamanlis sortait de la dictature des colonels, que celle-ci avait été très, très, très dure, que la Grèce en était encore tout à fait secouée. Et donc, cette idée de tendre la main à une démocratie naissante pour la faire venir dans le club des démocraties européennes était une bonne idée de géopolitique. Elle a mis beaucoup plus longtemps à se réaliser avec l'Espagne et le Portugal, mais les prémices, au fond, étaient les mêmes. Ça, c'est la part de réalpolitik. La part d'idéalisme, c'est l'idée que c'est la Grèce de Socrate et de Démosthène, que la Grèce a inventé la démocratie, que celle-ci est née sur l'agora, que c'est là que tout se passe. D'ailleurs, dans ses mémoires, il retrace une conversation qu'il a eue avec M. Karamanlis, qui lui a rappelé le nombre de mots dans la langue française qui avaient une origine grecque. Et il continue cette litanie en parlant de tout, y compris de téléphone, d'ailleurs, comme illustration. Donc, cette idée que la Grèce est la mère de la démocratie, la mère des Lumières européennes, et qu'elle a une place naturelle au sein de l'Europe, était une idée idéale. Idéaliste, mais qui se mariait assez bien avec une approche géopolitique.
Et au fond, les considérations de M. Karamanlis pourraient être interprétées de la manière suivante. On dirait que la Grèce se paye de mots, ou nous paye de mots. Michaela Wiegel.
Je crois, si vous permettez, avant que Michaela ne prenne la parole, qu'il y a une considération générale qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on parle de la politique extérieure de M. Giscard d'Estaing. C'est le point auquel le monde dans lequel il avait à se mouvoir était différent du monde que nous connaissons aujourd'hui. C'était un monde radicalement différent. Vous voyez, Franco ou les colonels grecs étaient tout proches. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça nous paraît de l'histoire très très ancienne. La détente qui a caractérisé le début du septennat de M. Giscard d'Estaing a très vite fait place à, au contraire, une exaspération de la guerre froide autour des épisodes africains que je viens de rappeler, plus tard de l'Afghanistan, etc. Et bien entendu, des problèmes stratégiques en Europe. Donc, au fond, il avait à se mouvoir dans un monde que nous avons presque du mal à reconstituer aujourd'hui, tellement il est différent d'une autre, mais qui déjà était différent de celui dans lequel le général de Gaulle conduisait sa politique étrangère. Oui, pardon de vous avoir interrompu.
Et j'ajouterai à ce panorama la différence économique. Nous sommes dans un monde où il apparaît normal d'avoir une inflation entre 10 et 12%, et en revanche insupportable d'avoir plus de 500 000 chômeurs. Là, on voit bien que les points d'équilibre, les références, ont été complètement bouleversés depuis lors.
Et dans un monde où le pétrole était à 5 $ avant le choc de 1973.
Pour ne rien dire de la Chine et de l'Amérique latine, qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que nous connaissons.
Bien sûr.
En se rappelant cela, je pense que justement, vous allez me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression que en même temps, Valéry Giscard d'Estaing était un des rares à réellement envisager une réunification allemande dans le champ des possibles et l'envisager avec pragmatisme. Alors, je voulais voir si vous pensez que effectivement, en quelque sorte, il a préparé aussi ce changement qui allait se réaliser beaucoup plus tard. Et si, au fond, ce n'est pas grâce à lui que nous avons tous adhéré à une Europe qui se construit par la monnaie. Parce que c'était quand même un des fils conducteurs de sa politique étrangère, de passer non pas d'abord par une harmonisation des politiques étrangères ou de passer par une harmonisation sur le plan social, mais de vraiment construire par la monnaie. Moi, en tous les cas, j'ai l'impression que ça nous marque encore aujourd'hui et que finalement cette approche était vraiment l'approche qui a gagné en quelque sorte, avec tous ses défauts.
Hein. François Bujon de l'Étang.
C'est l'approche qui prévaut toujours, en tout cas, aujourd'hui. Non, mais je crois que vous avez absolument raison. Ça, c'était le fil conducteur et ça a été vraiment la plus grande réalisation de sa politique européenne, puisqu'on en voit aujourd'hui les traces. En même temps, cette idée d'une unification par la monnaie était bien dans la logique de l'approche originelle de Jean Monnet, finalement. C'était par la création de solidarités économiques.